Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog. Un podcast un peu particulier aujourd'hui parce qu'on a décidé d'être en petit comité avec Romain et Camille. Ça va les mecs?
Salut. Ça va et toi?
Mais ça va super ma foi, après une semaine un petit peu chargée. Aujourd'hui, au sommaire, eh bien, nous aurons 4 thèmes, nous aurons en fait 4 jeux, 4 tests que nous avons effectués cette semaine. Parce que ce mois de février qui habituellement n'est pas très rempli, bah, cette année il est un peu chargé. On commencera avec XCOM 2, le jeu de stratégie de Firaxis qui était très attendu par les fans de la licence. C'est Camille qui nous en parlera tout à l'heure. On parlera aussi de Dying Light The Following, le DLC qui a un peu la taille d'un jeu complet. Hein. Je vous en parlerai tout à l'heure aussi. Project X Zone 2, Cross Zone, pardon, Project Cross Zone 2,
Brave Project New World. Project Cross Zone.
Voilà. Tu... Brave New World, c'est ça, son sous-titre?
Au Japon uniquement.
Ah, pas en Europe.
Il a été annoncé à ce titre, avec ce titre-là à la base, mais en fait, sur la boîte de chez nous, il n'y a pas
le
marqué
ça. Le tactical RPG qui croise les univers de Capcom, de Bandai Namco et de Sega, c'est Romain qui va nous en parler. Et on finira avec Firewatch pour savoir si il s'agit d'un vrai feu de joie ou d'un feu de paille. Ce jeu qu'on attendait, qu'on était très nombreux à attendre à la rédac. Et eh ben c'est moi qui ai fait le test et on vous donne la réponse tout à l'heure. Mais évidemment, la coupure elle s'est faite juste comme il faut. C'est la première fois que ça arrive.
Le talent.
Et ben, je sais pas voilà si c'est tout. Le talent ou si c'est la chatte comme on dit. Enfin bref, avant de passer eh bien, à XCOM 2, Dying Light, etc. Nous allons commencer eh bien, avec un win. Et le win de la semaine, je vais me tourner vers toi Camille. Est-ce que tu sais ce qui a winné cette semaine et c'est quoi toi?
C'est les biens culturels les plus vendus selon le CEL.
Comment ça? Les biens culturels en France?
Oui, en France.
En 2015?
Les biens physiques.
Ah ouais? Et qu'est-ce qui c'est qui.
Donc
qui
le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, donc nous indique que ce sont 3 jeux vidéo qui sont en tête de liste. FIFA 2016 avec 1,3 million d'exemplaires vendus quand même.
C'est FIFA 16, hein. Il n'y a plus le 2000.
Ouais,
attends,
FIFA 16.
Ouais, t'inquiète pas.
Oui,
pas
les
grave.
Jeux de foot.
Je crois que les gens l'ont compris.
Ouais.
Call of Duty Black Ops 3 avec 1,1 million de ventes et GTA 5. Donc
qui
3...
lui est à peu près 800 000. Hein,
voilà, c'est ça. Ouais, donc c'est... 3 jeux dans les biens physiques les plus vendus, biens culturels, c'est quand même bah, c'est une première. Hein,
c'est oui, c'est effectivement une première. Le jeu vidéo a déjà été premier plusieurs fois.
FIFA
mais...
est habitué.
FIFA a fait, bah, il est parti pour le grand chelem, je pense. Il était là l'année dernière déjà. C'était lui qui était le bien culturel le plus vendu en 2014. Donc il succède à d'autres. Hein. On me disait qu'il y avait du GTA San Andreas qui avait eu droit, que je me rappelle de PES qui a dû y être. Une ou deux fois, je crois, si je m'en rappelle. Mais ils se vendaient très très bien à une époque. Bref, c'est plutôt une bonne nouvelle
Pour nous aussi.
Pour nous, oui, parce qu'on va peut-être arrêter de nous prendre pour des débiles à un moment.
Et c'est intéressant de voir que, grâce à ces informations, on sait que seuls 2 jeux ont dépassé le million d'exemplaires en France en 2015.
Enfin, seuls, c'est déjà énorme pour la France.
Par contre,
c'est déjà pas mal.
Prendre aussi en compte que...
Non, je veux pas le prendre en compte.
Ce classement ne prend pas le dématérialisé. Donc,
oui, c'est vrai que c'est que le physique.
Ouais.
Mais le jour où on prendra en compte le dématérialisé, ça se trouve, ça sera encore mieux.
D'ailleurs, le dématérialisé qui gagne du terrain en France. Hein.
Oui. Absolument. De toute façon, vous pouvez retrouver sur Gameblog, on a fait.
Une news à ce sujet.
Oui. Plein de news. On a décortiqué ce document fourni par le CEL basé sur des estimations de GFK. Comment il s'appelle déjà? C'est pas l'encyclopédie du jeu vidéo? Je ne
me souviens plus non plus.
Ouais, enfin bon, bref, on en a parlé beaucoup, beaucoup. Et maintenant, on va. Alors, attends. Oui? Oui, monsieur Forget. Alors, j'ai une news très importante qui vient de tomber. On me dit que ça aurait pu être le win de la semaine. On me dit qu'il n'y aura pas d'Assassin's Creed en 2016.
Non.
C'est incroyable. Si, pas d'Assassin's Creed en 2016. Ubisoft aurait confirmé.
Ton oreillette a changé d'oreille.
Ouais, je l'ai changé en fait. Non, mais ça me gratte.
Et c'était déporté.
Donc, en fait, on n'aura pas d'Assassin's Creed en 2007. On
2007.
En a fait 2016. C'était un truc.
T'as les breaking news de Plumeau,
que Julot avait soutenu hein, d'ailleurs dans un J'ai quelque chose à vous dire, parce qu'il y avait une rumeur qui était parue. Un premier insider avait dit il y a quelques semaines, début janvier, non, il n'y aura pas d'Assassin's Creed en 2016 et en plus il se passera en Égypte, machin, il s'appellera Empire, il fera partie d'une trilogie. Truc qui avait été démenti par la suite et finalement voilà, Ubi a décidé finalement de bien faire souffler sa licence cette année.
Et ben c'est une bonne nouvelle je pense pour les fans de la série. Et ouais, il parle de vouloir retravailler.
T'as mon oreillette aussi.
Ouais, ouais, ouais.
Ah, d'accord.
Sauf que moi, elle est derrière, derrière ma tête.
Elle est pas sur ta montre.
Non, j'ai une vibration pour me dire qu'il y avait quelque chose, mais c'est tout. Donc oui, ils veulent revoir les mécaniques de gameplay, redorer le blason de la série Assassin's Creed. D'ailleurs,
bien, bien besoin d'ailleurs.
Ouais, ils disent qu'ils veulent en faire à nouveau la licence de jeu en monde ouvert numéro 1. Donc c'est quand même une certaine ambition. Après, pour tout ce qui est de la localité du jeu, genre l'Égypte, tout ça, ils en ont pas encore parlé. D'ailleurs, le prochain jeu de 2017 n'a pas été annoncé. Hein. Ils nous ont juste dit qu'on n'en aurait pas cette année. Et c'est plutôt pas mal. Et ça nous apprend, enfin ça nous redit une fois de plus, que les rumeurs, même qui peuvent parfois sembler un peu farfelues, eh ben elles sont loin d'être toujours fausses. Hein. Ouais. Et des fois, il y a bel et bien des mecs qui balancent. Et là, c'en est une preuve supplémentaire.
Bah en tout cas, c'est vraiment. Je pense que Julo est en train d'exulter. C'est pour ça qu'on n'est pas si nombreux en fait. Hein. Je pense que c'est parce que Julo.
Il est en train de faire la roue. Ils sont en train de... Je suis rentré dans la pièce, il faisait la roue dans le.
Je pense qu'ils ont sorti le champ pour cette annonce concernant Assassin's Creed. Et bien maintenant, on va passer au fail. C'est un peu moins joyeux.
Ah, c'est beaucoup même super moins joyeux.
On va pas dire que c'est un fail, c'est plutôt une nouvelle vraiment ultra triste.
Ouais, c'est triste.
Pour
les
vieux gamers comme nous.
Un vieux site de jeux vidéo américain qui était là depuis très longtemps, bah, c'est Game Trailers. Et il vient. Les gestionnaires du site viennent d'annoncer la fermeture du site pur et simple. Ouais. Et ce qui est particulièrement dur c'est pour les équipes, c'est qu'elles ont été prévenues quelques heures avant. Donc elles n'ont même pas eu vraiment le temps de se retourner ou de se préparer à cette fermeture. Fermeture annoncée d'un site qui était là depuis
2003.
2002. Depuis 2002. Ouais. Et mes parcours assez mouvementés malgré tout. Hein. Il y a eu une période un peu faste avec le rachat par MTV fin 2005. Après, ça a été progressivement
c'était
de
des
plus
vrais pionniers,
en plus compliqué.
Moi, je me rappelle qu'on allait voir énormément de trailers chez eux en bonne qualité
c'est
le milieu des années 2000.
C'est ça, là, ils ont été pionniers, mais c'est peut-être ce qui les a tués au final aussi. C'est juste qu'ils n'ont pas réussi à innover et à véritablement... même si leurs audiences étaient toujours très fortes, hein, mais c'est juste qu'avec YouTube ou Twitch à côté... Bah c'est extrêmement difficile de rivaliser. Déjà quand donc ils ont été propriété de MTV donc Viacom pendant plusieurs années, mais en juin 2014 ils ont été rachetés par DeFi Media. Déjà donc ça veut dire que Viacom n'en voulait plus, ils avaient déjà commencé à tailler dans le gras. Et quand ils ont été rachetés, bah, la nouvelle équipe s'est séparée de deux tiers des effectifs. Donc là c'était vraiment avec une équipe réduite que...
C'était un petit gouffre financier
c'était un gouffre financier, même si finalement ça marchait pas trop mal. C'est juste que bon, tu sais comment ça marche dans le business, hein, il faut maximiser les profits en permanence. Et donc bah, les équipes en ont fait les frais successivement. À une époque, il y a eu, comme c'était le même groupe, bah, Game Trailers avait son émission de télé animée par Geoff Keighley, Game Trailers TV sur Spike, qui est elle aussi une chaîne du groupe Viacom. Ça, là, l'émission a pris fin en 2013. Donc ça n'a pas été un parcours super simple pour Game Trailers. Et c'est triste malgré tout de voir que ça se termine comme ça. Parce qu'il y avait beaucoup de programmes de qualité hein, sur Game Trailers à une époque. Moi je me souviens de trucs sur les anecdotes les secrets cachés des jeux vidéo ou même des courts métrages et c'est aussi eux qui ont hébergé pendant un temps les vidéos de Screw Attack. Et Screw Attack c'est le site qui fait aujourd'hui les Death Battles, tu sais les émissions où il y a les deux personnages célèbres qui s'affrontent dans un combat à mort. C'est eux aussi qui ont hébergé pendant un temps Angry Video Game Nerd. Et donc voilà, c'est un site qui a eu une importance assez importante dans les médias jeux vidéo mondiaux.
Ouais. Voilà. Tu penses que quelqu'un va essayer de les ressusciter, de les kickstarter ou un truc dans le style, non?
Alors,
peut-être que les fans ou même que les anciens, justement comme Angry Video Game Nerd ou d'autres.
Non, lui il est totalement indépendant depuis longtemps.
Il pourrait dire je voudrais leur filer un coup de main.
Équipes. En fait, ce que j'aurais tendance à me dire, c'est que peut-être que la dernière équipe en date, qui avait quand même réussi à se créer une petite communauté qui était populaire. Peut-être qu'ils vont vouloir faire comme Greg Miller après son départ d'IGN, créer leur propre structure pour pouvoir faire leurs vidéos.
Quand on voit
vidéos,
comment ça a marché
etc.
pour lui.
C'est pas si simple que ça non plus pour Greg Miller. Hein.
Ouais,
il a son public, mais financièrement, je crois que c'est pas forcément super funky. Donc oui, ces mecs-là comme Michael Huber, qui est un des plus gros fans de Shenmue et dont la vidéo a fait le tour du monde après l'annonce de Shenmue 3 pendant le dernier E3. Donc lui et toute son équipe vont peut-être faire un truc ensemble. J'en sais rien pour l'instant, ils n'ont pas annoncé de truc, mais j'espère pour les équipes qu'elles vont réussir à rebondir rapidement.
On leur souhaite, c'est le minimum qu'on puisse leur souhaiter, même aux équipes de Game Trailers qui avaient fermé ses portes après 13 ans d'existence. On va passer maintenant au premier thème de la semaine. Un thème
mystérieux.
Non, c'est pas mystérieux ça. Si, c'est mystérieux. Non, c'est pas mystérieux. C'est un... Si, ça fait un peu X-Files, mine de rien.
Oui.
Et ça tombe bien parce qu'il y a des aliens dans XCOM.
XCOM 2.
Il y a des aliens, il y a un X. Oh là là, mais ça fait beaucoup de coïncidences tout ça.
La vérité est ailleurs.
Alors, XCOM 2 qui est sorti ce 9 février, non, je ne sais plus.
Oui, c'est ouais. Exact.
Sur PC.
Sur PC, donc on vient de publier le test aujourd'hui. Donc,
Au moment où on enregistre.
Voilà, au moment où on enregistre, oui. Donc alors il faut, c'est
que
le...
peux-tu nous dire sur ce jeu de stratégie gestion donc qui était très attendu parce que mine de rien XCOM c'est une licence qui a un peu d'âge
qui a beaucoup marché. Donc pour rappel, c'est donc il y a eu un reboot par le studio Firaxis en 2012, donc XCOM 1 d'une série qui date de 1994 tout de même,
ouais.
Qui à l'époque s'appelait XCOM UFO. Voilà. Et donc bah, il y avait beaucoup d'attentes pour ce jeu parce que le premier avait énormément marché et c'était du grand art. Donc,
du grand art hardcore aussi même. Hein,
oui, du grand art hardcore. Effectivement, il fallait s'accrocher pour pouvoir... Bah, il fallait vraiment... ouais.
C'était la campagne qui était compliquée.
C'était, c'était tout. C'était tout le système de gameplay, les combats étaient hardcore au possible. Et là, bah, pour le 2, ça n'a pas changé, ma foi.
D'accord.
C'est toujours aussi hardcore. Et d'ailleurs, heureusement, parce que c'est aussi une des grosses attentes de la communauté, c'était d'avoir un jeu qui finalement retrouvait ce qui faisait aussi le plaisir coupable, j'oserais le dire, du 1, c'est-à-dire mourir et remourir. Die and retry, hein, finalement.
Dans un jeu de stratégie.
Dans un jeu de stratégie, mais pas... Enfin, c'est un jeu de stratégie, mais tour par tour. Donc ça, il faut bien le noter.
Ouais. Il y a plus de gestion que de stratégie, peut-être, non ?
J'appellerais ça plus de la tactique que de la stratégie, dans le sens où... contrairement à un temps réel où on doit sur le vif prendre des décisions, là on a quand même un peu de temps, c'est-à-dire qu'on
c'est du tactical,
c'est du tactical, quoi. Donc donc le jeu a beaucoup de points positifs. D'ailleurs, je lui ai mis la note de 4.
Indispensable ou pas indispensable?
Indispensable, oui. Un must-have pour tous les amateurs de stratégie. Dans les gros points forts, déjà 40 heures de jeu minimum pour la campagne.
Pour la campagne solo, ouais.
Sans compter un mode multijoueur, bon, qui est un peu anecdotique, car il propose un seul mode, 1v1, versus 1v1, où on peut gérer son escouade et jouer contre
un personnage.
C'est
prévu de changer ça,
pour l'instant, c'est pas au programme. Et aussi, grosse nouvelle pour la durée de vie, c'est l'ajout des modes, enfin la possibilité d'avoir des modes.
Mm-hmm.
Donc la Firaxis va se reposer aussi
sur la communauté,
ouais. Comme beaucoup de jeux tels que les Elder Scrolls, etc. Mm-hmm. Faut savoir que les modes, ça permet de... Ça multiplie par 10 au moins la durée de vie d'un jeu. Si le jeu de base est bon, on le voit encore par exemple pour un jeu comme Skyrim qui est encore bien présent, présent sur Steam, etc., grâce à la communauté. Et Fallout 4 prend aussi ce chemin-là d'ailleurs. Dans les points forts, la durée de vie, le hardcore qui est toujours là, et aussi quelque chose de vraiment, vraiment génial, c'est la personnalisation.
Mm-hmm.
Car oui, mon cher Plumeau, on peut personnaliser son escouade.
Mais genre de l'armure jusqu'au bas de pied.
On peut tout faire, c'est-à-dire que donc déjà il faut savoir que comme tout bon jeu de tactique stratégie, on a la plupart du temps on voit ses soldats de haut et malgré tout on peut les personnaliser à notre envie, c'est-à-dire qu'on peut changer le visage, la coupe de cheveux, vous pouvez voir pour les premiums à l'image, la coupe de cheveux, l'armure, même la couleur des armures, on peut mettre des peintures de guerre sur le visage.
Alors on incarne que les humains hein,
on incarne que les humains. En fait, on est 10 ans, on se situe 10 ans après, on fait un bond de 10 ans dans le futur après XCOM 1, c'est-à-dire qu'on se situe en 2035.
Dans le futur ?
Ouais. Et les aliens ont déjà gagné ?
Voilà, en fait, c'est même pas que les aliens ont gagné, c'est qu'en fait, les gouvernements mondiaux ont lâché prise, ont décidé.
Ils ont capitulé.
Grâce à la corruption multiple de la part d'extraterrestres, on lâchait prise quoi, et on laissait tomber le projet XCOM qui était là pour justement lutter contre la menace extraterrestre. Justement, ça a permis aux extraterrestres de faire des hybrides, un peu comme on se retrouvait dans certains épisodes de X-Files, c'est-à-dire des hybrides humains extraterrestres. Donc, ça a l'occasion d'avoir des nouveaux ennemis hybrides qui peuvent utiliser des armes à feu, qui sont comme nous physiquement, mais il n'y a que le visage qui change et... C'est le gros des troupes en fait. Ils disent qu'on, on retrouve toujours l'extraterrestre comme dans XCOM 1, donc les petits gris pour les connaisseurs de races extraterrestres, c'est-à-dire des petits personnages avec la grosse tête et les gros yeux comme il y a sur la pochette, vous pouvez voir sur la table actuellement.
Des Roswell en gros quoi.
Voilà, c'est ça. Qui eux utilisent par exemple de nombreux pouvoirs psychiques qui permettent de contrôler l'esprit qui peuvent par exemple contrôler l'esprit de nos personnages, donc les retourner contre nos propres troupes. Enfin bref, c'est vraiment vraiment pas mal à ce niveau-là, donc un must-have pour ça. Par contre, le jeu n'est pas exempt de défauts. On peut par exemple noter un jeu très 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 gourmand, malgré la configuration recommandée qui était d'une GTX 770. La machine de test était équipée d'une 970 GTX, et malgré tout, ça ramait.
C'est vrai, t'avais assez de RAM, ton processeur est bon.
Oui, mon processeur est bon.
T'as mis ton écharpe avant de sortir. Non, pardon, excuse-moi. Je sais pas pourquoi je dis ça.
Processeur i5 4190 pour la machine de test, tout était bon, bien au-dessus de la configuration recommandée. Malgré tout, des chutes de framerate assez fréquentes, notamment en phase d'action
quand il y a beaucoup de
Et le plus étonnant aussi pendant les chargements qui sont un peu interactifs, et aussi pendant le menu. Alors ça, c'est assez assez casse-pied quand même de se retrouver avec un menu qui rame un peu. On a des chutes qui descendent en dessous les 30 fps, donc c'est vraiment visible. Hein. C'est pas comme si on passait à du 60 à du 50. Hein. C'est vraiment des grosses chutes.
Ça me rappelle un autre jeu dont on va parler tout à l'heure.
Ah, ouais.
mais je n'en parle pas tout de suite. Donc ouais, en gros, optimiser un peu avec le cul. Quoi.
Voilà, optimiser un peu avec le cul, mais honnêtement, c'est... Bon, c'est pardonnable parce que le jeu est tellement bon, tellement on est tellement pris, tellement happé par l'histoire, tellement happé par le gameplay, qui est vraiment du tactique vraiment pur et dur, que on oublie vite ses défauts. On pourrait noter aussi parfois les maps un peu fades, parce que faut rappeler que pour ce XCOM 2, on a le droit à des maps générées aléatoirement. Donc, qui dit à la génération aléatoire et un peu procédurale, ça peut arriver que ça soit un peu fade, un peu générique, mais encore une fois, ça reste très joli visuellement et on pardonne volontiers au studio Firaxis pour ces quelques erreurs. On est pratiquement sûr que dans le prochain patch, la moitié des problèmes vont être réglés, notamment d'optimisation. Bon, je mettrai pas ma langue à couper là-dedans, mais c'est vrai que à mon avis, ils vont bien le bosser.
Ta langue à couper, toi.
Ma langue.
Tu fais des remakes.
Mes mains à couper, ma langue à couper, je mets tout. Donc bref, on est sûr que ça va être. Enfin, on espère que ça va être résolu très rapidement. Mais voilà, c'est un bon studio. Il y a un bon suivi en général pour XCOM. Il y avait un très bon suivi, donc de ce niveau-là, on s'inquiète pas trop.
Donc, au final, grand jeu de stratégie
au
comme
final,
prévu.
Grand jeu de stratégie, 4/5, indispensable game blog. Et foncez si vous y avez jamais joué. Et puis foncez si vous n'avez jamais joué au premier non plus, parce que on n'a pas besoin. Enfin, le jeu offre un tutoriel très complet et offre un petit récap de l'histoire du premier. Donc à ce niveau-là.
Donc il sera pas trop pas trop obtus pour les personnes qui
on se retrouve très volontiers, c'est très bien, un tutoriel très bien expliqué, on apprend vraiment les bases très facilement, voilà.
D'accord.
Donc foncez.
Bah merci pour cet avis éclairé sur XCOM 2 qui est sorti sur PC donc le 9 février. J'espère que je ne me suis pas gouré sur la date. Mais bref, on va passer maintenant
à toi.
À moi, exactement. Ouais. Et c'est vous qui allez sûrement me questionner, puisque je crois que
je vais monopoliser
la parole un peu trop.
Tu nous parles de Firewatch depuis.
C'est pas Firewatch là tout de suite.
Ah, c'est pas Firewatch.
T'es deg, hein.
Je croyais que c'était toi qui parlais de Firewatch.
Mais non, écoute les bruitages là. Ça sent le zombie.
Ah oui, pardon.
Et non, Firewatch tout à l'heure. Et oui, avant Project X Zone 2 et avant Firewatch, on va parler de Dying Light et pas Dead Island. Dying Light The Following.
Je suis fatigué.
Et c'est dommage d'ailleurs, parce que Dead Island.
De quoi ?
Je dis, c'est bien dommage que.
Dead Island 2, tu voudrais.
Dead Island 2, j'attends ça avec impatience.
Ouais, moi aussi, depuis que. Mais ouais, mais attends, c'est qui l'a repris ? Parce que c'est pas Jagger qui va s'en occuper.
Je sais plus.
Ah oui, c'est vrai.
C'est un autre studio qui l'a repris. Deep Silver le file à quelqu'un d'autre. Et
c'est pour ça que d'ailleurs ça a été retardé.
Bah oui. Ouais. Pauvre Jagger.
Bon, mais là on vient donc à Techland qui avait fait effectivement Dead Island, le premier Dead Island, qui nous sort là un DLC costaud, massif, qui s'appelle Dying Light The Following, qui sort. Alors si vous êtes sur Steam. Vous pouvez le choper en DLC, tout à fait normal, à 20€. Faut savoir que si vous aviez acheté le Season Pass, c'est d'office il est pour vous, vous pouvez le choper. Sur console, c'est un autre système. Sur console, c'est soit vous achetez la version Enhanced Edition complète, donc qui coûte 60€, qui est une version améliorée de Dying Light, dans laquelle il y a le DLC qui sera compris, soit vous aurez obligation de prendre le Season Pass aussi. Malheureusement, le DLC n'est pas disponible sur le PlayStation Store et sur le Market Xbox One. Il n'est pas disponible tout seul, c'est un peu bizarre.
C'est dommage, ça.
Ouais, j'ai trouvé ça un peu étrange. Mais quoi qu'il en soit, je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Alors, ça se passe après la campagne principale de Dying Light. Vous vous retrouvez avec un mec qui vous dit qu'à l'extérieur de la ville, eh bien, il y a des gens qui arrivent à être à résister au virus. Ils se font mordre et malgré tout, eh ben, ils ne se transforment pas en zombies. Et vous avez envie d'en avoir le cœur net parce que s'il y a un antidote, évidemment, bah c'est mieux de l'avoir dans votre petite popoche et d'en faire profiter tous vos amis dans la ville de Harran que vous avez essayé de sauver précédemment. Alors, vous arrivez par une petite caverne comme ça et vous découvrez un immense champ devant vous. La map, elle est gigantesque. Elle est, d'après ce que j'ai compris, plus grande que celle du Dying Light. Enfin, des deux maps de Dying Light réunies. Elle est vraiment gigantesque. Et là, vous vous dites, mais je vais faire tout ça à pied. Mais j'y arriverai jamais. C'est pas possible parce qu'il y a énormément d'endroits où aller après avoir été justement voir cette petite communauté là qui ne se transforme pas quand un zombie les croque. Et ben là, ces gens là ils sont très gentils, ils vous filent un buggy et là ça devient la fête. C'est un des trucs qui change un petit peu beaucoup l'approche de Dying Light, qui était vraiment orienté on va dire sur la peur, ouais. sur le parcours, et fallait pas
traîner dans les rues,
pas avoir honte de fuir. C'était un truc où vraiment le moindre bruit pouvait attirer des zombies, et du coup on se disait bon, je vais peut-être aller plutôt en hauteur, mais même en hauteur un petit bruit ça pouvait les attirer.
Bah, genre la map était faite conçue pour ça, parce que c'était totalement faite pour le parcours, pratiquement que urbain.
Et c'était une des raisons pour laquelle d'ailleurs en ce qui me concerne, je l'ai considéré comme un excellent jeu quand il était sorti. C'est que le parcours, justement, le petit côté Mirror's Edge, ça a ajouté mais tellement de choses, justement au déplacement, au fait que quand on arrive la nuit, les zombies sont plus agressifs, qu'on se retrouve avec une race qui s'appelle les rapaces, qui est deux fois plus grande qu'un zombie normal, qui est deux fois plus rapide et qui vous déglingue la gueule en un seul coup. En ville, forcément, avec le parcours, ça permettait de les esquiver. Et là, avec le buggy, si on a envie de leur rentrer dedans, on leur rentre dedans. Bon, ça les fait pas tomber pour autant, mais on peut y aller en tout cas. Et donc ce buggy, ça ouvre vers de nouvelles options. De nouvelles possibilités, notamment pour le déplacement, évidemment, puisque la map est beaucoup plus grande, ça permettra d'éviter de se fader tout à pied. Et puis ça permet aussi, en accumulant l'expérience, vous avez pu le voir à l'écran si vous êtes premium, d'utiliser des petites astuces. Par exemple, vous pourrez mettre sur ce buggy déjà il y a un bélier, vous pouvez mettre un pare-buffle, mais il y a surtout une armature électrifiée pour faire sauter un peu les petits zombies. Vous pourrez mettre des lance-flammes aussi, et si vous vraiment
Pimp
vous
my
flippez
ride, quoi.
De quoi ?
Pimp my ride.
Exactement. Et si vous flippez vraiment la nuit, vous pourrez mettre des lampes à UV pour les rapaces, justement, qui sont les pires zombies qui existent, même si c'est pas les seuls. Sur toute cette map, il y a aussi des espèces de boss gigantesques qu'ils appellent les monstres dans cette extension, qui sont des trucs que vous pourrez jamais vaincre tout seul, à moins d'avoir atteint déjà le niveau 30 ou 40, qui est déjà très compliqué.
Mais du coup, est-ce que la nuit est encore dangereuse ? Parce que si on se retrouve en buggy...
Oui, la nuit est très dangereuse. Parce qu'en fait, dans le buggy, t'es pas protégé. Ouais. T'es toujours à l'air libre, et que ce soit les rapaces ou les autres zombies un peu plus rapides là, qui repèrent le moindre son et qui te foncent dessus à toute vitesse, tu te prends des coups. Si tu vas sur un zombie qui explose, ce qu'il fallait absolument éviter dans l'épisode original, c'est pareil, tu te prends les dommages. Non, il faut faire vraiment très très attention. Il y a ce mix de faire attention et de fun, donc on se retrouve avec des épreuves maintenant avec le buggy. Il y a évidemment de la course, mais il y a aussi des épreuves de destruction ponctuelle. Alors ça peut être des éléments de décor, mais ça peut surtout être des zombies, genre buter 20 zombies en moins de 60 secondes dans la zone, et ça ajoute encore des des tas de choses à faire avec le principe de Dying Light, avec le moteur de Dying Light qui a été un petit peu refait, qui profite cette fois, donc je le disais tout à l'heure, des bienfaits de la Enhanced Edition. Si vous aviez le jeu d'origine, vous avez eu cette mise à jour normalement qui permet bien d'ajouter tout un tas de nouvelles choses, d'améliorer un peu l'optimisation du jeu, améliorer un tout petit peu les graphismes aussi, qui vous ajoute des tas de nouveaux mouvements, il y a des tas de nouvelles armes aussi hein, qui ont été implémentées, des tas de choses à looter comme d'habitude. C'est un jeu c'est un DLC qui est incroyablement complet, incroyablement riche, qui peut se jouer encore une fois à 4. Je pense que les gens qui ont aimé le premier, dont je fais partie, qui l'ont trouvé très très bien, continuera à trouver.
Est-ce qu'ils ont réduit le flou cinétique gerbant du premier
façon
Techland, parce que depuis Dead Island
tu peux les activer en tout cas dans les options sur PC.
Et la jouabilité du buggy est bonne?
Alors la maniabilité du buggy est très bonne, elle s'améliore, hein. tu peux améliorer ton buggy au fur et à mesure en lootant des autres voitures. Et d'ailleurs faut faire gaffe aussi à l'essence, il faut faire gaffe à pas mourir trop loin de son buggy.
Faire gaffe à l'essence, contrairement à Walking Dead où des années après le début de l'épidémie, les voitures sont toujours pleines d'essence. C'est formidable.
Tout le monde est mort, donc voilà. Mais bref, il faut faire très attention de pas mourir avec son buggy dans le coin et de pas mourir trop loin d'un endroit où on réapparaît, parce qu'après il va falloir aller le rechercher. Si on n'est pas dans un coin où on peut rappeler son buggy automatiquement, ça peut être galère. Mais bref, oui, il y a plein de parties de buggy à looter et on pourra améliorer non seulement ses skills de conduite hein, et puis le buggy de manière générale, mais on pourra aussi améliorer le freinage, le moteur, l'accélération, les suspensions hein, qui morflent quand vous roulez pas sur la route. Tout ça vous pourrez l'améliorer grâce à des plans que vous trouverez un peu partout.
Il y a des zombies sous l'eau?
Non, c'était un de tes potes en fait. Si vous êtes premium, on peut jouer à plusieurs et effectivement on peut nager à plusieurs sous l'eau dans les moments
il y a toujours le mode cop
Ouais, on peut toujours jouer à 4 absolument. Et on a même pu l'essayer avec un petit peu avec Poufy et des potes. C'était plutôt marrant, on s'est fait un monstre à plusieurs. Faut savoir que les monstres ont toujours un point faible. Au départ on leur tire dessus comme des malades, on leur balance des grenades, puis à un moment on découvre qu'ils ont un point faible et on arrive à les buter. Mais bref,
il me semble d'avoir plus d'armes à feu que dans le premier, non?
Ah bah là tu peux y aller au niveau des armes à feu, ouais. Effectivement, parce que l'espace est un peu plus grand, donc le temps que il y aura toujours des zombies qui vont venir vers toi hein. Mais le temps qu'ils arrivent tu peux voir venir. Le petit truc qui m'embête un petit peu avec ce jeu, c'est qu'il y a encore beaucoup beaucoup trop de coffres qui nécessitent le mini-jeu de crochetage. Et ce mini-jeu de crochetage, je crois que depuis Fallout 4 là, ça y est, j'ai fait une overdose de jeux de crochetage comme ça.
Mais on t'entendait déjà pester contre ce système là quand tu testais la bêta ou la preview de Dying Light déjà
L'année dernière, oui. Bah, parce que je trouve qu'on l'a trop vu. Ce système-là qui consiste à orienter une épingle à cheveux dans une serrure. Et avec le stick droit, tu dois savoir si tu peux forcer ou pas. C'est bon, on a fait le tour.
C'est pas toujours bien fait en plus. Donc...
c'est pas que c'est pas bien fait, c'est que là j'en ai marre de voir ce truc tout le temps. Tout le temps.
Et une autre petite question concernant le buggy, est-ce que tu peux le détruire? Genre à force de. Est-ce qu'il s'abîme au fur et à mesure que tu roules sur des zombies ou des trucs?
Alors il peut s'abîmer et du coup il est un peu. Brinque-ballon, mais j'ai jamais réussi à le détruire. Non, alors là, ça, je crois que tu peux pas le détruire finalement. C'est juste un truc, il faut le réparer. Et
un buggy en adamantium.
Voilà. Non, ça aurait été pas mal. Peut-être avec les derniers plans, il devient invincible, mais je suis pas certain de ça non plus. Dernier mauvais point, la VF, une fois de plus. C'est à peu près les mêmes doubleurs que pour Need for Speed. Hein. Donc,
yo, man!
C'est yo, j'ai appris que t'étais un dur. Alors viens me montrer un peu ce que t'as
dans mon crew.
C'est un peu toujours ça. C'est très mal joué.
C'est le défaut du 1 d'ailleurs.
Ouais, c'est très mal joué, malheureusement. Et je peux pas en vouloir aux acteurs qui font ça. Des fois, ils ont des conditions qui sont pas idéales.
Mais, on leur impose
et des traducteurs,
un style.
Et des traducteurs qui sont pas forcément non plus idéaux. Mais bref.
Kojima.
Idéotube même. J'ai envie de dire. Et donc voilà, ça fait que Dying Light reste un super jeu. Ce DLC est vraiment, je vous le conseille, mais mille fois. Mais bon, si vous avez envie de jouer en VO, n'hésitez pas non plus. Je vous le déconseille pas en tout cas. Bref, on va passer à quelque chose de.
Ta note, tu l'as pas.
Ah, ma note, c'était un petit 4 indispensable, hein, comme l'épisode original. Je vous dis, c'est quelque chose que les fans vont forcément adorer. Et puis, même les gens qui ne connaissent pas encore Dying Light, foncez sur la Enhanced Edition avec The Following. Vous en aurez pour votre argent.
Et ouais. Sinon, XCOM 2, c'était le 5 février.
C'était le 5. Ah là 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 là, non.
Et juste avant, avant de passer à autre chose, pour un dernier truc sur Dying Light, pour faire la promo de cette version, il y a Warner qui a diffusé une vidéo très chouette sur l'évolution des zombies dans la pop culture. Et donc, en fait, ils ont pris un même comédien et ils ont maquillé en zombie, mais dans les différents types de zombies qu'on a pu voir dans la fiction jusqu'à présent. D'accord. T'as le premier zombie des années 30, t'as le premier zombie de Romero, sans jamais les citer pour des questions de droit. Zombie à la Resident Evil, les infectés de 28 jours plus tard, etc. Et la vidéo est vraiment chouette, et c'est vrai que les zombies ont beaucoup changé au fil des années.
Tu te rappelles du titre de la vidéo de la news ou pas?
Le titre de la news...
c'est l'évolution des zombies à travers les âges, un truc comme ça.
Dying Light vous fait découvrir l'évolution des zombies. Si vous cherchez les news liées à Dying Light, je pense que vous la trouverez. Elle est plutôt chouette et mérite le coup d'œil. Voilà.
Bon, bah, n'hésitez pas à aller voir.
Tu l'as vu aussi?
Ouais, je l'ai vu aussi. Ouais.
Voilà. Bon, et ben, comme je le disais, n'hésitez pas à aller voir. On va passer au troisième thème de ce podcast. Un thème qui va me casser les oreilles très vite parce que, comme d'habitude, comme avec Naruto, hein, au niveau de la musique,
c'est
je crois que les Japonais ils font un truc qui me convient pas, quoi.
Mais ça c'est juste l'intro.
Ouais.
Ça c'est juste l'intro parce que pour le coup le reste du jeu, la musique est canon puisque ce sont des musiques tirées des différentes licences. Donc.
D'accord. Alors au moment où nous enregistrons, attends. Hop. Au moment où vous... Maintenant c'est bon en fait, tout va bien. Il sort quand déjà
Vendredi 12 février.
Vendredi 12 février, tu vas pouvoir nous en parler plus en détail maintenant. Et parce que tu as joué à peu près
longtemps.
210 heures.
Des 12 000 heures. Et franchement, je m'éclate.
D'accord.
C'est, tu vois, si tu prends un... Parce que c'est un tactical RPG, un projet Cross Zone 2, parce qu'on n'a toujours pas dit
titre depuis tout à l'heure. Si, on l'a dit que c'était projet Cross Zone 2. Mais c'est pas très... les différents trailers, c'est pas ce qu'ils montrent en premier lieu, que c'est un tactical RPG. Non. Au départ, tu t'imagines peut-être même que c'est un jeu de baston.
Oui, certaines personnes d'ailleurs ont été déçues par ça, pensant que c'était un jeu de baston. Alors qu'en fait, non, c'est pas du tout ça. C'est une map avec une vue un peu du dessus, et vous devez placer vos personnages. Et détruire tous les ennemis présents sur cette map, des fois en remplissant des objectifs, comme désamorcer un certain nombre de bombes placées sur la map avant un nombre donné de tours. Alors tu vois, je pense qu'en termes de gameplay tactical, c'est vachement moins avancé qu'un XCOM par exemple, mais là n'est vraiment pas l'intérêt du jeu en fait.
L'argument de vente vient d'autre chose.
L'argument de vente principal et qui fonctionne super bien sur moi, c'est le crossover en fait. Déjà moi j'avais beaucoup aimé le premier épisode, et là
qui est passé totalement inaperçu d'ailleurs, hein.
Et ben
en Europe,
ben curieusement oui et non, les gens n'en parlaient pas, mais il s'est vendu parce qu'en fait ils l'ont sorti un peu genre le premier, je parle, ils l'ont sorti sans vraiment y croire.
Mais est-ce que tu penses que c'est pas à cause du titre, tout bêtement?
Et le titre aide pas.
Je pense que sait pas ce que c'est, hein, quand on entend le titre. On se dit pas, c'est un crossover entre les univers de Namco, entre les univers de Bandai Namco, Capcom et Sega.
Plus un peu de Nintendo dans celui-là aussi. Un personnage de Xenoblade.
D'accord.
Et un personnage de Chrome et Lucina qui sont de Fire Emblem.
Ah oui.
Oui.
Ah donc Nintendo a réussi à s'incruster
un petit peu.
Faut dire que le jeu est sur 3DS donc forcément.
Ouais. Et donc le premier épisode, ils l'ont sorti comme ça. D'ailleurs ils l'avaient traduit qu'en anglais. C'était voix japonaise, texte en anglais.
Ouais.
Mais ils en ont vendu genre beaucoup plus que ce qu'ils imaginaient. Et donc ils se sont dit on va retenter le coup. Et cette fois on va le localiser dans les différentes langues européennes, enfin les principales, dont le français. Donc là Project Cross Zone 2, on a le droit à des dialogues en français. Et franchement, pour les gens qui ne parlent pas du tout anglais, c'est une très bonne chose, que les dialogues sont vraiment un gros point fort du jeu. Outre l'intrigue, qui est un peu fantaisiste, hein, mais forcément, quand tu dois mélanger tant d'univers, réussir à faire une histoire vraiment travaillée, ce n'est pas forcément évident.
Oui, puis c'est pas ce qu'on attend non plus.
Non. Et là, l'histoire est travaillée, mais pas au niveau de l'intrigue, en fait. Elle est travaillée au niveau des interactions entre les personnages. Déjà, comme c'est un univers qui existait déjà dans le premier projet Cross Zone, certains personnages se connaissent déjà. Donc il y a des interactions entre des persos qui se retrouvent. Ah mais qu'est-ce que tu fous là, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce qu'en fait, à cause de problèmes provoqués par différents ennemis, les univers et les époques se retrouvent mélangés. Donc il y a un gros micmac dans tout ça, et plus la situation avance, plus de nouveaux personnages viennent rejoindre l'équipe, et ça donne lieu à des échanges.
Là, je viens de voir le héros de Street of Rage avec Ryu Eken là par exemple.
C'est ça par exemple. Et le héros de Streets of Rage, qui est donc Axel, qui est un flic, par exemple, si vous le mettez avec les Yakuza, en équipe avec les Yakuza, va y avoir un échange genre ça m'embête un peu de collaborer avec des voyous, mais après les mecs ils vont se répondre comme ça. Ou alors quand vous mettez Phoenix Wright avec les gars de Resident Evil, enfin Jill et Chris de Resident Evil, je suis sûr que vous avez pas l'habitude que ça se passe comme ça au tribunal ou des trucs comme ça. Et donc faut s'amuser, parce que ce sont des équipes de deux plus un personnage de soutien. Il faut s'amuser à mélanger vraiment les équipes pour avoir tous les dialogues spéciaux. Et c'est vraiment, vraiment fun. Par exemple, vous mettez... je veux pas trop vous en dire pour pas spoiler les gens qui vont faire le jeu, mais si vous mettez Ryo Hazuki de Shenmue avec les gars de Tekken, les gars de Tekken, c'est Kazuya Mishima et Jin Kazama, qui sont père et fils, mais qui sont en super mauvais termes. Et on sait que Ryo, lui, la base de son intrigue, c'est la vengeance, c'est pour venger son père qui a été tué. Mm. Et donc là, tu vas avoir Ryo qui va faire... c'est quand même triste de voir qu'un père et son fils s'entendent si mal, etc. Ouais. C'est dommage. Et là, t'as Kazuya Ujin qui lui répond non, mais occupe-toi de tes affaires. Enfin, il y a plein de trucs comme ça et c'est vraiment chouette. Et outre les petits dialogues avant combat, vous avez aussi plein de dialogues pendant les niveaux et entre les niveaux. Mmh. Et là aussi, c'est pareil, c'est bourré de références aussi bien aux jeux vidéo qu'aussi bien à la culture gamer. Y compris la presse jeux vidéo des fois, enfin, c'est vraiment marrant, et à la pop culture d'une manière générale. C'est pour ça il y avait déjà plein de petits clins d'œil dans le premier, mais je trouve qu'ils sont allés encore plus loin dans le 2, et il y a eu un travail qui a été fait sur les références et sur l'humour et sur le fan service qui est beaucoup plus poussé que dans le premier, et c'est encore plus réussi, je trouve, à ce niveau là et après le système de tactical RPG fonctionne très bien lui aussi. Il est assez simple, peut-être un brin répétitif, mais ça c'était déjà le défaut du premier épisode. C'est pour le coup, c'est vraiment la seule chose qui m'a un peu gêné avec le jeu. Je m'amuse tellement que le côté répétitif des combats, j'arrive facilement à passer outre. Tu vois, c'est un coup de cœur pas forcément cohérent, mais c'est un vrai coup de cœur.
C'est pas trop facile.
Alors c'est facile, alors, surtout pour moi qui ai vraiment terminé le premier jeu, c'est très facile pendant les 20 premières heures.
Ouais.
Ensuite, ça commence à devenir plus difficile, mais c'est assez brutal en fait. Et après, dans les niveaux plus avancés, là, il y a un peu plus de challenge. Mais malgré tout, c'est pas.
Ça se passe comment au niveau de ton équipe? Question rapide, mais on t'impose les personnages en fonction de l'avancée du scénar, ou c'est ton équipe, c'est toi qui l'as fait?
Alors au début, t'as des équipes. En fait, les duos sont tous figés.
Ouais.
Mais ils ne sont pas présents dans tous les niveaux. En fait, il y a certains niveaux où tu as un trop grand nombre d'équipes pour ce que la map permet. Mmh. Donc, ça va être à toi de sélectionner, par exemple, 10 équipes.
D'accord.
Donc, c'est à toi dans le menu.
Et les équipes seront disséminées à travers la map, c'est ça pour,
Alors,
pour...
ça dépend. Alors, des fois, elles sont ensemble. Ouais. Des fois, elles sont à plusieurs points de la, plusieurs
donc,
points
comme
de
dans la
map.
Plupart des tactiques,
oui, ça. Oui, c'est assez... c'est assez commun.
Ce que je veux dire, c'est qu'elles étaient sur la même map en même temps, quoi.
Oui, ouais, voilà.
D'accord.
Mais tous les personnages ne sont pas dans tous les niveaux, par exemple. Il y a des moments où il va falloir faire un choix, en fait.
Il y a des histoires de soutien ou pas quand t'as deux équipes, l'une à côté de l'autre.
C'est exactement ça.
Sur le même ennemi.
Si, par exemple, je vais prendre des noms comme ça histoire d'être plus clair. Si vous avez Chris et Jill de Resident Evil et qu'à côté vous avez X et 0 de Mega Man, les quatre vont pouvoir attaquer. Il y aura les deux héros à qui c'est le tour de jouer qui, eux, pourront frapper trois fois ou éventuellement quatre si vous avez assez de points pour balancer une attaque spéciale. Plus le personnage de soutien qui est, lui, toujours incrusté à cette équipe qui va faire son attaque. Plus éventuellement une autre unité qui, elle, était à proximité sur la map qui, elle, va pouvoir attaquer une fois aussi.
Donc, il y a un minimum de tactique quand même à mettre en place pour pouvoir...
Et surtout qu'après, quand vous arrivez à des niveaux où les ennemis ont beaucoup, beaucoup de points de vie et qui sont très résistants et qu'il y a des prérequis pour ne pas perdre. Mm-hmm. Par exemple, des ennemis qui avancent progressivement vers un endroit que vous devez protéger et que tous ces ennemis-là ont beaucoup de points de vie, forcément, il va falloir réfléchir au placement de vos personnages et à savoir qui utiliser. Est-ce que j'utilise, parce qu'en fait les points qui permettent de déclencher une attaque spéciale sont communs à toutes les, sont partagés en fait. Donc est-ce que je déclenche mon attaque spéciale sur cet ennemi là ou est-ce que je le déclenche sur cet ennemi là qui, lui, me pose plus de risques d'atteindre l'objectif qu'il faut défendre. Donc voilà, il y a un peu de stratégie aussi.
Ah, non, et donc c'est varié en fonction des niveaux, évidemment, il y a des objectifs différents.
Voilà, et dans certains niveaux, il y a des pièges, etc.
Ah, bah ça c'est bien.
C'est quand même plus travaillé que le premier, parce que le premier, c'était quand même plus ou moins la même chose tout le temps. Là, ils ont donné un peu plus de variété. Je pense que si vous êtes un joueur ultra acharné de Tactical et que vous achetez Project Cross Zone 2 plus pour le côté tactique que pour le côté crossover, vous allez peut-être trouver ça un peu simpliste. Mais si ne serait-ce que deux ou trois licences présentes dans le jeu vous plaisent, voilà, vous allez
prendre votre pied. Des petites surprises aussi, des petits revenants.
Ils sont allés ressortir Segata Sanshiro et il est super drôle dans le jeu. En fait, il est un peu à l'ouest et c'est assez marrant.
Moi, je croyais qu'il était mort.
Bah selon les...
Pour moi, il avait sauvé la Terre. J'avais vu la pub.
Ils font pas du tout référence à sa mort.
C'est dingue ça,
dans le jeu,
parce que moi, je me rappelle parfaitement avec la petite secrétaire justement qui avait failli se prendre le missile dans la gueule et lui qui fait Segata Sanshiro en pleurant.
Bah, il faut se dire aussi que les personnages sont pris à des points précis de leurs histoires respectives. Par exemple, Chris et Jill de Resident Evil, ce sont versions Revelations.
D'accord.
Alors que Léon Kennedy de Resident Evil, lui, c'est version Resident Evil 6. D'ailleurs, quand ils se croisent, Chris et Jill reconnaissent Léon. Ils disent « Ah, Léon, c'est toi !» Et lui, il fait « Non, ça peut pas être vous, vous êtes beaucoup trop jeune. » Donc, tu vois, ça tient comme il y a différentes époques qui sont mélangées. Ils ont vraiment... En fait, ils se sont pas juste contentés de mettre les personnages dans un shaker et de les balancer comme ça. Mmh. Ils tiennent compte des différentes époques, etc. Donc, ça se trouve, Segata, c'est pré-suicide.
Ah, suicide. Non, c'est pas suicide, il a sauvé la planète.
Un petit truc rigolo avec Segata Sanshiro, c'est que parfois, quand c'est à l'équipe dans laquelle il est de jouer, vous l'entendez faire Sega.
Ah bon
ça. Ouais.
Ah oui, ils étaient jusque-là.
Mais ce qui est ça, en plus, c'est un truc qui est chouette, c'est que. Il n'y a pas de respect que pour les licences Bandai Namco, parce que c'est un jeu Bandai Namco à la base. Ils ont traité avec le même amour tous les personnages, en fait. C'est chouette. Et bien évidemment, des musiques prises de toutes les bandes-son. Par exemple, moi, je connais pas Resonance of Fate. C'est pas un jeu que j'ai fait. Les trois personnages de Resonance of Fate qui sont dans Project Cross Zone, je les connaissais parce qu'ils étaient dans le premier. Mais donc j'ai appris à les connaître grâce à ça. Et en plus, ça m'a permis de découvrir les musiques de Resonance of Fate que je trouve super belles.
Et du coup, tu vas y jouer la semaine prochaine. Tu vas dire, mon Dieu, c'est le jeu de ma vie. Et...
Non, mais par contre, non, c'est vrai que ça m'a donné. Parce qu'il y a une encyclopédie. Si vous connaissez pas les personnages, il y a une encyclopédie in-game qui vous permet de savoir d'où ils viennent, qui ils sont, etc. Et ça m'a donné envie de me renseigner sur certaines licences, dont Resonance of Fate. Et les musiques de Fire Emblem, je les trouve super belles aussi. Évidemment, les musiques
Fire Emblem, ça défonce.
Musique de Shenmue qui est formidable, le thème musical de Segata Sanshiro, la musique de Space Channel 5. Enfin, c'est du fan service à tous les niveaux et du fan service bien fait.
Et du coup, c'est une note de combien?
C'est
déjà
du 4 pour moi, c'est du 4 indispensable. Ouais.
Bon, très bien, ça c'est sorti sur 3DS.
Que des bons jeux pour l'instant.
Exactement, pour l'instant, que des bons jeux. 12 février, hein, 3DS,
12 février.
En Europe, localisé en français. Project Cross Zone 2. On va passer au dernier thème de la semaine. Un thème.
Et là, c'est Firewatch.
Oui, là, c'est Firewatch avec une petite musique composée par le compositeur de Gone Home. Et donc Firewatch.
Campo Santo.
Un jeu de Campo Santo qu'on attendait beaucoup tous.
Ouais,
on avait fait notre petit guide de février. Hein, rappelez-vous, on vous disait début février quels étaient les jeux qu'on attendait le plus pour ce mois de février.
On sent la petite déception dans ton ton quand même. Tu vois, moi je suis vachement enjoué sur Project Cross Zone 2. Bah, Camille était enjoué pour XCOM, mais là, ça retombe un peu.
Je suis un petit peu déçu.
Mais je pense que Plumeau est un traître.
Oh non, n'exagère pas. Non, je dois vous avouer que. Du début jusqu'à la quasiment la fin, je me disais c'est quand même pas mal, mais
il manque quelque chose.
Il manque un truc.
Quel est ce truc?
Et quand je l'ai fini, j'ai dit donc il manque vraiment un truc en fait. Hein, et ce truc, c'est je sais pas, c'est la surprise en fait, c'est l'étonnement, le truc
twist.
Le truc qui va me couper le souffle, qui va me faire dire j'ai vécu une aventure extraordinaire. C'est pas du tout ce qui s'est passé pour moi. Il y a ce prologue donc qui est tout textuel, qui est très touchant, je trouve. Moi, ça m'a vraiment fait penser à Là-haut, les premières minutes de Là-haut,
horribles premières minutes de Là-haut
qui m'ont fait chialer toute la salle. Je me rappelle que tout le monde avait des lunettes 3D, mais tu pouvais voir les larmes derrière les yeux.
Comment tu peux ne rien ressentir quand tu regardes les premières minutes de Là-haut?
Ça fait à peu près le même effet, tu vois, quand tu commences Dying Light, Firewatch, c'est que du textuel où tu vas avoir des petits choix, genre bah, vous rencontrez Julia, qu'est-ce que vous voulez faire, vous voulez la draguer, vous voulez faire ceci, vous êtes son copain, vous voulez avoir un chien, vous choisissez quelle race, etc. On va avoir plein de petits choix comme ça qui vont nous amener et bah, avec le personnage de Henry donc, et bien dans cette tour dans le Wyoming, dans une forêt en plein été, une forêt très sèche, ce qui est susceptible de voir des départs d'incendie. On se retrouve là pour des raisons, parce qu'on avait un petit peu envie de, bah, de s'évader, d'être ailleurs, d'être seul. Et je me disais, bon, bah, il va se passer quelque chose, quoi. Parce qu'en fait, on se retrouve tout seul dans la nature, c'est très joli. Effectivement, on est porté par une ambiance.
On est garde forestier, c'est ça ?
Exactement, on est garde forestier. Et on est porté par une ambiance sonore qui est incroyable, visuellement. Alors j'irais pas jusqu'à dire que c'est à chaque fois c'est des peintures, mais quasiment
c'est stylisé, très stylisé,
c'est très 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 beau, avec un jeu de lumière surtout appuyé par le soleil, en fait, par la lumière du soleil, quoi. Il y a toujours des couleurs très très chaudes quand il faut, des petits effets de brume ou de rosée qui sont magnifiques. Chacun des lieux qu'on visite sur la map, qui est assez grande quand même, mais pas trop, et qui nécessite une petite boussole et une carte pour qu'on se repère au début.
C'est
sublime à regarder, c'est vraiment sublime.
Et encore, tu l'as testé sur PS4.
Et je l'ai testé sur PS4.
Oh là là, c'est quoi ce snobisme?
Et ben parce qu'en fait, sur PS4,
non, mais sortez-le d'ici tout de suite.
Non, mais figure-toi qu'il a
un autre joueur console là. Allez-vous-en, monsieur.
Il a totalement raison, parce que la version PS4.
Oh là 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 là, mais c'est contagieux.
C'est
un nouveau virus.
Non, monsieur, elle a des gros problèmes, la version PS4. D'ailleurs, on l'a testé après la sortie. Et le patch n'existait toujours pas, mais Campo Santo a dit qu'il bossait dessus, parce que il y a un truc qui peut vous sortir assez facilement du jeu, c'est le fait que ça rame genre sévèrement, et c'est pas le seul problème que le jeu a. C'est à dire qu'en fait, quand vous changez de zone de la map, ou qu'il y a une mini sauvegarde qui se manifeste, ça frise, quoi. Ça frise pendant une demi seconde, une seconde, mais ça peut s'enchaîner très très long moment, et c'est vraiment très pénible. C'est pas les seuls trucs qui me sont arrivés. J'ai eu droit à des freezes complets qui m'ont fait redémarrer le jeu.
Et en parlant tu dis pour les chargements aussi, c'est ça.
Ouais.
C'est un monde ouvert complet.
Mais le truc, c'est qu'alors on évolue par journée.
Ouais, d'accord.
Donc pendant une journée, on peut se retrouver à dire bah non, je vais pas aller accomplir la petite tâche qui m'a été assignée, je vais aller me balader. Tu peux parfaitement te balader où tu veux.
Ah, ça serait bien, ça.
Dans les limites qui te sont imposées, évidemment. Mais tu peux te balader et profiter, t'asseoir, peut-être pas t'asseoir, mais en tout cas profiter des décors. Ce qui est assez étonnant, et j'aurais peut-être dû. Oui, je pense que je pourrais peut-être le mettre dans les mains, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a beaucoup de bruit de faune. Mais bon, en tout.
Tu la vois jamais.
J'ai vu un cerf, un raton laveur et une tortue. Et le reste, j'ai jamais rien vu d'autre. J'aurais bien voulu voir des petits oiseaux, des trucs comme ça. Bon, j'en ai pas trop vu. Bref.
Ils ont peur de toi.
Hein. Écoute, peut-être.
Et si tu vas te balader comme ça et que tu tiens pas compte de l'objectif, est-ce que ça a un impact sur la progression, ou est-ce que ça te cause du tort par la suite, ou ça n'a aucun impact?
Ça a pas trop d'impact, non. Le seul truc qui va avoir de l'impact, c'est l'élément de gameplay principal du jeu. C'est ce talkie-walkie que vous allez avoir en main. Avec lequel vous allez dialoguer avec une jeune femme qui s'appelle Delilah, qui est une quadragénaire comme le personnage principal, qui a l'habitude depuis 13 ans de prendre ce petit job de garde forestier, qui est votre supérieur, et c'est elle qui va vous dire un petit peu ce que vous devez faire pendant tout le jeu. Et il va y avoir une espèce de petit jeu qui va se faire entre eux, en fait, une espèce de relation qui va se nouer à distance.
Un flirt,
quoi. En gros, un espèce de flirt Après, ça dépendra aussi de nous-mêmes. Ça dépendra des réponses qu'on va lui donner. Comme dans Walking Dead ou comme dans Oxenfree plus récemment, c'est un système de réponses timé. Donc vous avez trois réponses ou le silence à la fin du temps imparti. Et suivant ça, votre relation pourra évoluer. Si jamais vous êtes un peu brutal, elle vous dira j'ai pas trop envie de te parler pour l'instant. Ça pourra changer du tout au tout. Donc ça fait partie des trucs les plus importants du jeu, c'est cette relation qui se tisse entre les deux.
Ça a un impact sur la fin, ça ?
Ça peut avoir un impact sur la fin, assez léger, je trouve. Mais bon, après, c'est encore une autre histoire. Mais surtout, pendant qu'on fait ces choses-là, il y a des choses qui vont se passer. Tu vois, il y a quelque chose comme 79 jours en tout, mais vous n'allez pas vivre tous ces jours-là, hein, y aura des ellipses, ce qui est un peu dommage aussi d'ailleurs, parce que ça aura aidé à rendre, on va dire, l'expérience globale encore plus attachante.
Et allonger la durée de vie qui est que 5 heures, il me semble.
J'ai fini à peu près en 4 heures, 5 heures, ouais. Un truc comme ça. Donc effectivement, il y a la partie acting qui est géniale, hein. Rich Sommer qui joue Henry est super, et Cici Jones qui joue Delilah, pareil, ils ont des dialogues qui sont parfaits, ils les jouent très très bien, c'est vraiment crédible. Mais l'histoire en elle-même, qui part, on va dire d'une réprimande que le joueur va faire à l'encontre de deux jeunes filles qui campent dans le coin et qui se sont dit tiens, je vais faire un feu de camp, je vais balancer des feux d'artifice, je vais boire de la bière et saloper le parc. Ça part de là, et à partir de là, il va se passer des événements un peu étranges, un peu mystérieux, notamment une mise à sac de la tour dans laquelle vous vivez.
N'en dévoile pas trop.
Mais j'en dis pas trop, ouais. Parce que, mais ça c'est au tout début, hein, donc il va se passer d'autres trucs, et petit à petit il y a une espèce d'intrigue qui va se nouer pour savoir, mais ça se trouve, je sais pas, il y a d'autres gens qui sont ici, est-ce que moi je suis en train de délirer, est-ce que vraiment je suis menacé, est-ce que Delilah est menacée, est-ce que c'est pas elle qui se fout de moi. Il y a plein de mystères comme ça, un gros mystère qui va être éparpillé un peu dans les différentes journées. Et c'est de ce côté-là qu'en fait qu'il est vraiment décevant. C'est qu'il n'y a pas de moment, peut-être un moment où effectivement on a une surprise, mais le reste du temps, ce sentiment d'oppression, même quand on te dit « Ah, vite, retourne à ta tour, il va se passer un truc », tu ne le ressens pas trop, quoi. Et c'est vraiment… comment ?
C'est plat.
C'est assez plat, ouais. De ce côté-là, c'est assez plat. C'est pas. L'encéphalogramme reste vraiment tout plat. Pour juste cette partie-là, du coup, on arrive à la fin un petit peu frustré, quoi. On se dit, ok, je suis content, j'ai eu une belle relation avec Delilah. Mais c'est quoi la finalité finalement de...
C'est peut-être un simulateur de garde forestier, tout simplement. C'est... Peut-être qu'il cherchait peut-être pas à rendre le jeu exaltant.
Moi, je sais pas. Franchement, je trouve que le voyage est plutôt pas mal. Mais à l'arrivée, tu te dis bon.
Tout ça pour ça, quoi.
Un peu, ouais.
Et ce que tu parlais.
Parce que c'est dommage, hein, vraiment, je le dis, on est vraiment porté par le truc. Mais il manque quelque chose.
Ouais, t'es porté, et sauf que tu retombes brutalement quand tu te rends compte qu'en fait ça mène à rien, quoi.
Bah ouais, c'est un peu bizarre.
Et au début du jeu, tu expliquais que tu répondais à des questions pour liées à ta relation avec Julia, c'est ça ?
Delilah.
Non, non.
Ah,
début, Julia.
Oui, Julia. Ouais.
Est-ce que ça a un impact sur le déroulé du jeu ou quoi que ce soit, ou c'est juste
non,
pour te faire répondre à des questions ?
Non, c'est juste des informations qui pourront être utilisées contre toi, comme on dit dans les milieux policiers. Ah. Enfin, c'est des informations, quoi. Des trucs dont toi, tu vas essayer de te
souvenir ensuite.
Souvenir, ou au contraire, tu auras envie de t'échapper. Bref.
Ça n'empêchera pas de l'acheter.
Ah, mais alors, je ne le considère pas comme une bouse, hein. N'allez pas prendre...
Ah, si, si. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris.
Bah non, c'est juste...
Genre, pire jeu de l'année, quoi.
Bon, pas loin. Non. Non, non, c'est juste...
Pire jeu du siècle.
Peut-être que j'en attendais beaucoup trop, en ce qui me concerne, mais... C'est pas aussi réussi. Pourtant, Dieu sait que les deux directeurs de The Walking Dead, de la saison 1 de The Walking Dead, qui ont bossé dessus à l'écriture, ils ont du bagage, ils savent comment s'y prendre, mais ils n'ont pas réussi à trouver le point. Pour moi, ils n'ont pas réussi à trouver le point d'accroche scénaristique pour rendre le tout, on va dire, un peu palpitant et un peu surprenant, quoi. C'est juste ça.
Bah, le problème, c'est que maintenant, quand il y a une expérience un peu arty comme ça, les gens ont toujours tendance à s'attendre à être transportés, tu vois, à vivre une expérience vraiment forte. Mais je pense que tous les développeurs n'ont pas le talent pour faire ce genre de choses.
Je sais pas si
c'est
une question de talent ou c'est une question de dosage, en fait. Parce que je pense qu'ils ont surtout dosé sur la relation, justement, entre les deux personnages à distance, et pas assez
un peu
sur
à la
ce
Clementine et Lee,
mais pas assez sur ce sur cette sur ce comment dire ce ce mystère qui entoure ces petits événements qui entourent l'endroit où tu te retrouves.
T'as des réponses quand même à la fin, ou
ouais, t'as des réponses,
c'est juste qu'elles sont décevantes, quoi.
Bah c'est assez, et surtout tu peux même t'en douter rapidement, quoi.
Ah,
donc c'est un peu ça le problème. C'est voilà, je pense que c'est une question de dosage, et pas vraiment, et ouais, un peu trop de focalisation sur le... Alors après, c'est peut-être qu'on me dira que c'était une comédie romantique et que j'ai mal compris, hein. Mais j'ai pas l'impression que c'était l'intention, en tout cas de mon côté.
Ouais.
Mais bref, j'ai passé un moment pas trop désagréable quand même, mais pas génial. C'est un peu dommage. Voilà. Pour moi, c'est juste un bon jeu.
Alors, c'est déjà pas mal.
Bah, c'est déjà pas mal, mais ce jeu, vraiment, quand on voyait ce qu'on avait vu depuis le début, on pouvait dire que ça allait être un jeu extraordinaire.
Et là, Camille retire son masque. En fait, c'est un des développeurs de Firewatch. Ouais.
Mais non. Pas cette fois. Mais bref, voilà, c'était un avis comme ça. Hein. Attention, je ne suis pas la vérité absolue. Vous pourrez nous dire vous-même dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous l'avez fini, Firewatch, et notamment si vous l'avez fini sur PS4, si jamais vous êtes aussi très sensible à tous les problèmes techniques qu'il a rencontrés. On a mis notre petit warning Day One d'ailleurs hein, pour le test. Parce que sans patch, effectivement, ça peut être assez pénible.
Après, il faut dire aussi, parce que ça, je pense pas, je crois que tu l'as pas évoqué, pour les francophones, la version française arrivera plus tard.
Le sous-titre français arriveront plus tard, ouais. Ça peut être aussi un autre frein au jeu, que ce soit sur Steam ou sur PS4. Effectivement, les développeurs ont promis une localisation, mais pas tout de suite, tout de suite. Ouais. Enfin, voilà, c'était mon avis pour ce jeu qui s'appelle Firewatch de Campo Studio, qui est sorti ce 9 février sur PC et PS4. Et maintenant, messieurs, vous savez ce qui se passe ? Eh bien, comme chaque semaine, oui, vous le savez, nous vous proposons notre petit hors-jeu hebdomadaire. Chaque semaine, nous parlons de films, de séries, de livres, de documentaires peut-être aussi, qui nous ont émus, qui nous ont plu cette semaine. Et on va commencer avec toi, Romain, avec quelque chose qui t'a beaucoup ému.
Ah oui, beaucoup ému.
Qui t'a mis la larme au slip, même si j'ai envie de te dire. Ce sont des comics.
C'était comme une... J'ai appris l'existence de ces comics en juillet 2015, quand ça a été annoncé pendant le Comic-Con. Et c'était comme un cadeau d'anniversaire pour moi, parce que c'était vraiment quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc, comme le montre Poufy, c'est le crossover Batman et Tortue Ninja.
Mais c'est pas la première fois que les Tortue Ninja ont droit à un crossover comme ça. Il y a eu les Ghostbusters.
Il y a eu les Ghostbusters l'année dernière, ou il y a deux ans, je les avais tous lus, j'avais trouvé ça très chouette. Uh-huh. Et donc ils ont décidé de remettre ça, et apparemment, enfin en termes de vente, ça cartonne. Uh-huh. Et moi pour l'instant, il y a le troisième volume qui vient de paraître, moi j'ai lu les deux premiers.
D'accord.
Et c'est vraiment bien. En fait, c'est les Tortues Ninja qui se retrouvent transportées à Gotham City. Enfin, je dis Tortues Ninja, mais aussi Splinter et aussi Shredder et le clan des Foot.
Ouais.
Donc ils se retrouvent à Gotham City, et donc ils vont devoir trouver un moyen de rentrer chez eux, et aussi trouver les moyens de remédier à un problème qui leur arrive. Bon, je vais pas spoiler, parce que je veux pas gâcher l'intrigue pour les gens. Mais donc évidemment, ils se retrouvent là. Batman, lui, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs, parce qu'il y a le clan des Foot qui ne tarde pas à semer le bazar à Gotham City. Donc,
mais c'est dans une autre dimension, Gotham City, du coup, parce que je comprends pas.
Oui, c'est un monde c'est un monde parallèle, en fait. C'était quand les Tortues Ninja avaient rencontré les Ghostbusters, c'était un peu la même chose. C'est une histoire de portail. Et voyez, regardez là, la rencontre entre Batman et Shredder, parce qu'en plus je trouve le dessin très réussi. Et après ce sont des comics, hein, donc des petits numéros, donc ça, c'est très fin, ça se lit super vite.
Oui, c'est des versions américaines, hein, que tu as.
Oui, ce sont des versions américaines. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça sur internet. Ouais. Sur le site de DC Comics, je crois que c'est possible de le commander. De toute façon, il y a des revendeurs de comics anglais qui sont présents sur internet. C'est pas du tout difficile à trouver.
C'est jamais très cher non plus, c'est 5$.
Là, en anglais, c'est le prix américain, c'est $3.99. Donc, si vous les commandez en Angleterre, vous allez les payer un petit peu plus cher. Et j'aime beaucoup. Après, oui, dans le volume 2, évidemment, il y a une petite confrontation entre... J'essaie de vous les montrer en même temps, mais... Une petite confrontation entre Batou et les Tortues Ninja, forcément, pour le fanservice.
Oh, tu peux les montrer à la caméra, hein, si tu veux, premium, t'inquiète pas.
Je me lève.
Voilà, et je te bouscule.
Mais tu ne te réveilles pas,
comme d'habitude.
Alors, vous voyez... Avec la lumière, ça va peut-être être un peu chiant.
Ouais, mais ouais, on voit donc Batman.
Poufy va m'éclairer. Non, il ne peut pas. Bon, c'est pas grave.
C'est pas grave. On voit assez
comme
bien,
toujours avec les comics américains, il y a des couvertures alternatives. Donc certaines ont été moins éditées que d'autres. Donc il y en a certaines qui sont déjà très chères. Ah, voilà, ouais. de l'éclairage fait maison.
D'accord. Très bien. Ça rend pas très bien l'audio. Donc
je vais essayer de vous montrer une page à l'intérieur.
D'accord.
Au hasard, comme ça.
Ouais, Poufy nous en a montré quelques-unes, hein, tu sais.
Ouais.
Pour vous qui n'êtes pas premium.
Oui, c'est vrai.
Désolé pour cet intermède totalement visuel.
Ah, après.
Mais bon, vous avez envie de.
Un truc qui m'a fait rigoler, qui n'a strictement rien à voir avec l'intrigue, c'est que dans le premier volume, il y a une pub pour Astérix. Pour le dernier Astérix.
Tu m'avais dit ça, oui.
Alors que c'est un comic book, voilà. Discover the new adventure of world's most famous goal.
Astérix est traduit dans je ne sais combien de langues, hein, tu sais, c'est un carton.
Y compris en anglais. Donc voilà, pour Batman Tortue Ninja, très très chouette. J'ai hâte de lire la suite. C'est en 6 numéros. C'est une mini-série en 6 volumes. Donc là, le troisième vient de sortir. Donc on atteint la moitié. Et j'ai hâte de voir Batou et les Tortues Ninja se battre côte à côte. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a Splinter. Splinter prend part à l'action déjà dans les deux premiers volumes. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'on le voit pas toujours se battre. Alors que c'est un maître en arts martiaux lui aussi. Qui a tout appris au
tortue
d'ailleurs. Oui, il se préserve.
Ouais. Comme Yoda finalement.
Oui, un peu ça. C'est le Yoda des Tortues Ninja, ouais. Sauf que Splinter.
Tout comme Doko dans.
Sauf que Splinter est plus cool que Yoda.
Ouais, non, c'est le chevalier de la balance le plus cool. Je sais que vous êtes au courant. Mais bref, bah merci. Ça m'intéresse aussi. Je pense que tu me les prêteras
avec plaisir bientôt.
Camille. Ton hors-jeu de la semaine, c'est un film qui vient de sortir au cinéma, si je ne m'abuse.
Oui, un thriller horrifique encore.
Avec une actrice que j'aime bien en plus.
Oui. Tu aimes bien toutes les actrices.
Non, pas spécialement. Non, mais elle, c'est parce qu'elle joue dans une série que j'aime beaucoup, qui est The Walking Dead.
Lorraine Cohen, absolument. Donc Maggie dans la série
Maggie
Walking
Green
Dead.
Dans Walking Dead.
Je ne peux que te rejoindre.
Mais
qui est une très bonne actrice, hein, franchement.
Alors dans The Walking Dead, de toute façon, je trouve pas qu'ils sont tous extraordinaires.
Non, mais elle. Est-ce une bonne actrice? Moi, je trouve.
Ok, je ne sais pas. Je ne suis pas totalement convaincu.
Je suis convaincu par son physique, mais pas par ça.
ouais, encore. Bon, bref. The Boy, donc. C'est un film d'horreur.
Donc, un film de William Brent Bell qui avait déjà réalisé un film qui s'appelait Devil Inside. Mm-hmm. Un film de possession. Bon, c'est pas forcément le meilleur film d'horreur qui soit. Mais celui-là, ma foi, il est vraiment pas mal. Bon, faut pas s'attendre non plus à de l'horreur, voilà, vraiment de l'épouvante à vous faire frissonner. Ça reste gentil hein, quand même. Donc l'histoire c'est donc...
Bah alors un film d'horreur qui fait pas peur, c'est un peu raté pour le coup.
C'est un film c'est plus un thriller horrifique qu'un vrai film d'horreur, un vrai film d'épouvante en fait.
D'accord. C'est-à-dire qu'il y a pas de trip au plafond
Non, c'est vraiment
c'est de l'angoisse.
Ouais.
L'ambiance est très bonne mais c'est pas ça va pas vous faire frissonner du début jusqu'à la fin quoi. C'est vraiment surtout la première partie du film enfin sans spoiler. Donc en fait l'histoire c'est donc Lorraine Cohen, cette fameuse actrice que Plumeau
j'aime bien voilà
joue le rôle de Greta qui est une américaine qui se rend en Angleterre dans une famille qui cherche une nounou pour garder un petit garçon du nom de Brahms qui a 8 ans. Et quand elle se rend sur les lieux, donc les parents lui montrent ce fameux petit garçon. Et comme vous pouvez voir à l'image, pour les
premiers, c'est une poupée.
C'est une poupée de porcelaine, ce qui est assez malsain en soi. Et donc à partir de là, va se découler toute une histoire. Et
il y a des règles visiblement.
Oui, voilà. Alors les parents expliquent. Donc les parents sont un couple assez âgé. Vont expliquer que le petit garçon il faut qu'il respecte des règles, donc notamment de se coucher à 8h30 du soir il me semble tous les jours, qu'il doit reprendre son repas, etc. Donc elle prépare des repas qu'elle jette finalement à la fin, et voilà, donc elle doit préparer des repas, s'occuper de lui, lui faire son lever, lui raconter des histoires, lui faire des cours, lui faire de la lecture, etc. Donc ça devient, dès le début, c'est assez malsain comme ambiance. Et c'est justement toute la première partie du film finalement qui est vraiment purement horrifique, et vous verrez que la seconde partie l'est beaucoup moins, vous comprendrez pourquoi pour ceux qui verront le film. Mais en tout cas je recommande pour les amateurs de thriller horrifique.
D'accord. Et bah écoute, moi je sais que j'ai vu les affiches, on me disait c'était plus flippant qu'Annabelle. J'ai pas vu Annabelle.
Oui. Bon, de toute façon, Annabelle n'est pas forcément un excellent film.
Il a fait parler de lui énormément.
Oui, à cause de finalement, il a fait une bad.
Un beau bad buzz. Ouais,
le truc, c'est qu'elle avait été marquante dans les dossiers Warren, The Conjuring.
C'est ça, qui est un très bon film pour le coup.
Alors, pour le coup, moi j'en ai vu beaucoup des films d'horreur, et au bout d'un moment, j'étais un peu désensibilisé, tu vois, ça me faisait rien. Mais alors, The Conjuring,
très bon film.
Ouais. Il m'a vraiment flippé.
Et l'ambiance est très bonne, les acteurs sont bons, enfin, c'était un sans faute.
Bah, on en reparlera quand The Ring versus The Grudge sortira.
Ouais, alors, ça, j'ai hâte de le voir, parce qu'on parle de films d'horreur. J'ai vu ça hier.
Ouais.
Vous savez ce qu'ils sont en train de préparer? Un film d'horreur. Le titre m'échappe, dans lequel il y aura Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers de Vendredi 13, Pinhead de Hellraiser et un autre. Enfin, ça se passera dans une prison spéciale ou un truc comme
ça. Genre avec les acteurs.
Robert Englund.
C'est vrai.
Ouais.
Oh là là, mais putain, ça va être n'importe quoi.
Le Expendables des films d'horreur.
Attends, ouais, mais ça c'est des films d'horreur pour adolescents. C'est pas.
Je te trouve très désagréable.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais ce sont des bons. Enfin,
il dit ça. Il dit ça. Le premier film d'horreur comme ça, il était même pas né quand c'est sorti.
Ouais, c'est vrai, ça va nous non plus. Hein.
Non, c'est vrai. Ouais.
Non, mais il y a des bons films dans l'eau, mais c'est vrai que quand, c'est vraiment du teenager movie. Fin...
Slasher.
Ouais, du petit slasher.
C'est, en fait, c'est,
pour,
c'est...
Pour nous émoustiller, quoi.
Voilà, mais c'est pas non plus, bah, c'est pas non plus hyper effrayant. Enfin, c'est pas. Mais voilà, là, là, pour le coup, c'est plus une ambiance. Pour The Boys, c'est plus une ambiance un peu gothique. Bon, ça se passe dans époque, notre époque contemporaine, mais il y a une ambiance un peu victorienne, puisque ça se passe dans une vieille maison anglaise. Donc, on retrouve un peu les thématiques anciennes du film d'horreur, et c'est vraiment pas mal à ce niveau-là.
Ok, voilà. Bah écoute, on va
et
surveiller
non,
ça.
Et non, je ne suis pas élitiste dans les films d'horreur. Je regarde non,
moi j'aime les, je n'aime que les films d'horreur d'auteur d'ex-URSS, je suis désolé. Voilà. Je les regarde qu'en VO sans, tout, sans sous-titres.
Et en 4K.
Tu voulais ajouter quelque chose, Romain ?
Lenin's Ghost. Oui, non, mais est-ce que tu as un hors-jeu, Plumeau ?
Oui, bien sûr, j'ai un hors-jeu.
Et bah, je rajouterai un petit truc après.
C'est vrai ?
Oui.
Bon, alors mon hors-jeu de la semaine, c'est un film que j'ai revu avec un grand plaisir. Je ne l'avais pas revu depuis, je crois bien plus de 20 ans. Hein. C'est un classique des années 70, c'est Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Ça m'a fait plaisir de le revoir parce que ça faisait vraiment longtemps. En fait, c'est Julien qui était allé à New York avec Carole il n'y a pas très longtemps qui m'a dit qu'il était allé voir Le Fantôme de l'Opéra à New York. Et du coup, je me suis dit, tiens, il faudrait que je revoie ce film complètement barré de Brian De Palma, dans lequel en fait ça mélange un petit peu effectivement Le Fantôme de l'Opéra avec le mythe de Faust, couplé à encore un autre truc, mince, il y a une autre histoire qui s'ajoute à ça, j'arrive plus à me rappeler laquelle, mais bref, vous me reprendrez dans les commentaires pour vous rappeler à quelle légende il fait référence. Mais bref, c'est complètement dingo.
Ça fait un peu penser à Rocky Horror Picture Show.
Et là, c'est exactement la même ambiance, et c'est exactement le même, comment dire, la même sensation que tu peux pas avoir un film. Il faut que tu l'acceptes avec ses défauts. C'est-à-dire sa mise en scène un peu bizarre, ses acteurs qui ont l'air de faire un peu kitsch, ces trucs. Tu peux l'accepter que comme ça.
Est-ce que tu as lancé du popcorn et du riz sur ta télé comme
non,
pour,
non, mais c'est juste. C'est juste parfait, quoi. Tu as un condensé des années 70 avec ce film qui raconte donc l'histoire d'un cum qui était compositeur, qui a composé tout un opéra rock dont va abuser le propriétaire d'un lieu. Voilà, c'est Dorian Gray, la troisième légende, le troisième mythe qui s'est mixé à ça, et donc qui va se retrouver un peu maudit. Et qui va essayer justement de saboter un opéra qu'il a lui-même composé, qui lui a été volé, de manière à ce qu'il soit interprété par une jeune femme qui chante très bien. Évidemment, elle est très jolie, et c'est dommage qu'il n'y ait aucun des trois oiseaux qui soit là, que ce soit Traz, Julien ou Julo, parce que l'actrice chanteuse qui joue dedans ressemble beaucoup à une secrétaire de rédaction qu'on a eue pendant très très longtemps sur Joypad, qui s'appelle Géraldine. C'est son portrait craché, Géraldine même, mais bon, ils verront de toute façon cet extrait vidéo, et je pense qu'ils arriveront à réaliser. Les musiques de Paul Williams n'ont pas trop vieilli. Paul Williams, je ne sais pas si vous voyez, mais si vous avez écouté le dernier album de Daft Punk, il y a une chanson qui s'appelle Touch dessus, c'est lui qui l'interprète. Alors, ça m'a permis de me rappeler qu'il avait déjà une voix de vieux à l'époque. Donc, du coup, finalement, tout allait bien en fait sur Touch. Et voilà, c'est un espèce de feu d'artifice complètement délirant, un petit peu incohérent, un petit peu fou. Et comme le Rocky Horror Picture Show, c'est un film culte pour tous ces aspects, et ça marche toujours aussi bien aujourd'hui, je trouve.
Très bien, plus.
Donc, n'hésitez pas, en DVD, en Blu-ray, et je crois aussi en VOD, mais je ne sais plus où, n'hésitez pas à le remater, vous allez bien vous marrer.
Ça a un lien avec le fantôme de l'opéra, ou c'est totalement...
Oui, bien sûr, en fait, ça reprend le principe du fantôme de l'opéra qui hante un lieu, oui, qui est un opéra, mais là, c'est, en l'occurrence, c'est une salle destinée au rock, pour des concerts de rock, avec un mec maudit et une cantatrice, etc. Mais ça reprend aussi le mythe de Faust, le mec qui vend son âme au diable, plus... le mythe de Dorian Gray, le mec qui vieillit pas, enfin bon, j'en dis pas trop parce qu'après
c'est un côté comique quand même, ou
ah,
pas
oui,
du tout.
Ouais. Oui, il y a des petits trucs un peu comiques, quoi. Il y a des personnages qui sont assez comiques.
Ouais, parce que là, quand tu vois les images comme ça, tu dis c'est tellement kitsch que ça doit forcément
mais
être drôle.
Je pense que jamais il faudra qu'il y ait un remake ou quoi que ce soit aujourd'hui, parce qu'il serait incapable de récupérer la même magie qu'on peut avoir.
Non, ils arrivent pas à restituer cette ambiance des années 70-80.
Tu voulais rajouter un dernier truc
oui, alors j'avais
je l'avais promis dans le, je crois que c'est dans les commentaires du site. Mmh. Je voulais parler de ma rencontre avec Christopher Lloyd rapidement.
Ah oui.
Pour tirer quelques petites choses.
Qu'est-ce qui s'est passé avec le doc?
Avec le doc. Donc, il faut savoir qu'on arrive avec Poufy qui m'a cadré au Paris Manga. Mmh. Et donc là, on nous explique que ça va être un timing ultra serré.
Ouais.
Genre la mise en place des équipements, c'est décompté du temps d'interview. Mmh. Donc histoire de te donner un type d'ambiance, voilà. Mmh. En plus, comme c'était une interview, on avait un quart d'heure, mmh. mais c'était du temps partagé avec Carole pour son site à elle,
ouais.
ce qui fait que ça diminuait cela en deux, donc mmh. avec la mise en place, etc. Et il faut aussi se dire que Christopher Lloyd est arrivé en France le vendredi.
Ouais.
Le vendredi soir, mmh. samedi toute la journée Paris Manga, dimanche toute la journée Paris Manga.
Avec le décalage horaire dans la gueule.
Avec le décalage horaire et ses 77 ans mmh. et je pense des petits problèmes d'audition étant donné que j'ai remarqué une aide auditive dans mmh. son oreille. Donc. Et donc nous on arrive dimanche fin d'après-midi, donc à la toute fin de sa présence sur le salon. Et à son âge, enchaîner les signatures, les photos, etc., bah, c'est quand même fatigant.
Il devait être épuisé,
donc
ouais.
déjà, c'est un comédien qui est très timide et discret de base, qui mmh. parle pas énormément. Là, deux, on le prend jet-lagué et fatigué. Trois, supervisé de très près par son agent, mmh. qui était vraiment à côté. Mais, et
alors,
qui chronométrait.
Qu'est-ce qu'on t'a reproché exactement?
Bah, en fait, la vidéo de l'interview est pas encore, au moment où je vous parle, est pas encore sur le site. Mmh. Mais j'en ai tiré, on va dire, les éléments les plus intéressants pour en faire une news.
Ouais.
Mais le problème, c'est que ces éléments intéressants bah, sont pas très nombreux et pas très longs. Et
ouais.
c'est vrai que pendant l'interview, déjà, la vidéo que vous verrez, il y a plein de passages coupés où il y a beaucoup de questions où il m'a tout simplement pas répondu ou des je ne sais pas, où mmh. il faisait des phrases très courtes à chaque fois.
Ouais.
Il n'était pas... Il n'avait pas l'air dans l'optique de répondre à des interviews, en fait.
Mmh.
À un moment, je lui ai quand même demandé quels étaient ses projets à venir, dans quel film on allait pouvoir le voir prochainement, etc.
Ouais.
Parce que moi, c'est un comédien que j'aime bien, donc j'aime bien savoir ce qu'il fait.
Mmh.
Il m'a dit bah, « j'ai un film qui sort au printemps, mais je ne me souviens plus du titre ». Donc c'est quand même assez compliqué de relayer cette réponse là mmh. quoi. Je vais vous montrer Christopher Lloyd en train de dire j'ai un film qui sort mais je me souviens plus du titre. Et même pour les gens qui produisent ce film, bah, c'est vachement cool de voir que le comédien se rappelle même plus du titre.
Bon, toujours est-il que tu as quand même eu la chance de le rencontrer.
Oui, je suis ravi.
C'est un type qui a l'air charmant en plus.
Voilà, il a été très poli, souriant, mmh. etc. Comme les photos.
Mais la gestion à l'américaine, ça porte toujours.
La gestion aide pas. Mmh. Le timing serré, le moment de la journée ou du week-end où, mmh. s'est déroulée cette interview, bah, ça aidait pas forcément non plus. Je l'aurais eu samedi matin avant qu'il commence à signer.
Ouais.
Là, je pense que ça se serait pas passé de la même manière, et si j'avais eu mon quart d'heure pour moi, mmh. oui, il y a. Vous imaginez, moi, Retour vers le futur, c'est un film que j'ai vu plus de fois que je peux compter. J'adore Roger Rabbit, j'avais bien aimé la famille Adams aussi.
Mmh.
Si je me souviens bien, il jouait aussi dans Vol au-dessus d'un nid de coucou au
Absolument,
début de sa,
oui. ah,
au début
bien sûr,
de sa, au début de sa carrière. Donc,
ouais.
il y aurait eu énormément de choses.
C'est un grand acteur de théâtre aussi. Hein,
que genre, oui, il a commencé à Bordeaux, mmh. etc. J'aurais voulu pouvoir parler de toutes ces choses-là avec lui. Le résultat de l'interview, j'en suis le premier, désolé malgré tout, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu avec les conditions qui m'étaient imposées. Voilà. Et donc, je vous avais dit dans le podcast que j'allais essayer de lui faire dire nom de Zeus,
ouais.
mais rien que le fait de lui expliquer ce qu'était nom de Zeus, etc., ça m'aurait pris 2 minutes sur mon interview, au moins 2 minutes sur mon interview. Donc, en plus, il faut dire aussi que la salle où les interviews étaient faites était au milieu du salon et pas du tout insonorisé, ce qui fait qu'il y avait tout le brouhaha ambiant autour, donc on s'entendait pas forcément
pas
super bien non plus,
ouais.
donc voilà, j'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu.
Bah,
là,
personne
je pense
n'en
que,
doute hein.
Vu les plateaux qu'on a fait, etc., je pense que la vidéo sera chouette malgré tout. C'est juste dommage qu'on ait pas pu avoir plus de meilleures conditions pour discuter.
Mais peut-être un autre jour.
Et pourquoi pas.
Peut-être.
Si l'occasion se représente.
Tu sais, il habite où
Il habite en Californie, à Los Angeles.
Bon, bah voilà, bah écoute, à l'E3, tu passes lui faire un petit bisou et puis tu lui reposes des nouvelles questions. Peut-être qu'il sera plus en forme devant un petit café.
Ouais, peut-être.
Bon, en tout cas, merci pour ces hors-jeux, Camille
je t'en prie.
Et Romain, et moi-même d'ailleurs, puisque.
Merci plus beau.
Nous
sommes de nous avoir parlé de Phantom
merci
of Paradise.
Mais j'espère que vous allez le regarder d'ailleurs. Hein. Vous avez intérêt et vous me ferez une petite fiche de lecture.
Interrogation écrite.
Et j'ai envie de dire maintenant merci pour ce podcast tout court.
Mais de
donc
rien.
Une fois de plus, Romain, Camille et Poufy à la technique et le fantôme à ma gauche, puisque c'était un podcast assez particulier. Nous n'étions que trois, le reste de la rédaction étant effervescence depuis qu'on a appris par Breaking News qu'il n'y aurait pas d'Assassin's Creed en 2016. Bon, en fait, c'est pas vrai, c'est même pas pour ça, mais je vous donnerai pas la vraie raison. Je vous laisserai la deviner, je vous laisserai nous dire dans les commentaires ce que vous imaginez comme raison. Et je vous laisserai aussi dire dans les commentaires si vous avez des choses à nous dire concernant XCOM 2, Dying Light, The Following, Project Cross Zone 2 ou Firewatch. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques comme chaque semaine. Allez, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, évidemment, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao.
Au revoir, messieurs, dames.
Salut.